Bonjour, bienvenue sur Cunéo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de 3 enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le ton de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions. De vous ouvrir un monde de possibles, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce 6e épisode, j'ai eu une conversation passionnante avec Rosella Gotti. Rosella, je l'ai découverte lors de sa conférence aux grands ateliers de l'île d'Abo, à l'occasion de l'événement de valorisation du travail des femmes dans le domaine de la construction. Terre, femmes, savoir-faire, en octobre. Valoriser le travail des femmes dans le domaine de la construction, bien entendu, ça m'a parlé. Pendant cet entretien, Rosella nous parle de sa pratique depuis ses études jusqu'à la création de sa structure, de son inscription à l'ordre, de ce qui a mené à la création du collectif MEMO, Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, en 2016. On aborde ce que le regard des femmes change sur l'espace public en tant qu'usager, en tant que maître d'œuvre ou en tant que maître d'ouvrage. En tant que journaliste aussi, parlons d'un ouvrage ou en tant que sujet de monographie. Nous abordons ce que cela changerait pour des étudiants et des étudiantes en architecture que d'avoir plus de mixité dans les ouvrages, les architectes récompensés, les enseignants. L'architecte, comme tous les humains, se construit vis-à-vis d'un modèle. En architecture, le modèle manque cruellement de diversité. MEMO œuvre pour que cela change. Dans Cunéo, peut-être l'avez-vous compris maintenant, nous sommes attachés à représenter la diversité. Pour le moment, nous avons réussi à respecter la parité. Mais notre préoccupation en 2022 sera d'introduire toujours plus de mixité. Je m'y engage. J'espère que vous avez tous bien conscience, quel que soit votre genre, que le sujet de la mixité est important pour tout le monde dans le domaine de l'architecture. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Rosella.
Bonjour Chérine.
Est-ce que tu peux te présenter? Tu peux nous dire ton nom, ton âge, où est-ce que tu as fait tes études, en quelle année tu as été diplômée et le nom de ta structure?
Oui, donc d'abord merci pour cette invitation. Et je m'appelle Rosella Gotti, je suis italienne d'origine et j'ai fait mes études donc à Venise, à l'école d'architecture de Venise. Je vais avoir dans quelques jours 50 ans, donc je suis diplômée en 1998. C'était un cursus d'études assez régulier que j'ai fait à l'école, donc ça m'a pris 6 ans pour mes diplômés. Et donc, depuis, j'ai fait 2 migrations, une en France et l'autre en Angleterre. Et c'est à Paris où j'ai décidé de m'installer. Et c'est donc, j'ai une petite agence d'architecture qui porte mon nom. Donc, tout simplement, Rosella Gotti Architecte.
Ok. Est-ce que tu peux nous replonger dans le bain de tes études, nous dire quel genre d'étudiante tu étais? Est-ce que c'était plutôt facile? Est-ce que c'était dur? Voilà les enjeux que tu as rencontrés pendant tes études.
Ah oui, d'accord. Donc moi, il faut dire aussi que j'avais décidé de m'inscrire à l'école d'architecture avec une idée de devenir conservatrice des biens du patrimoine historique. Donc c'était pour cette biais que je voulais devenir conservatrice. Et il faut dire que depuis que je suis arrivée à l'école, je suis restée complètement fascinée par les projets, donc pour la nouvelle construction. Et c'est sur ça qu'après, j'ai visé tout mon cours d'études et mon projet de diplôme final, qui était justement un projet. Donc, je me suis fait très, très, très fascinée par, par, par ça. J'étais étudiante bon, moyennement brillante, mais bon, toujours très partante pour les travaux en groupe, qui était parfois obligée, parfois non. Donc, j'ai remarqué toujours ça. Et j'étais représentante des étudiants au conseil de la faculté. Donc, j'étais une étudiante plutôt engagée, on pourrait dire, dans les luttes étudiantes. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas à moi un vrai sentiment de devoir voir le côté genre, parce que qui a été après, par la suite, dans la vie professionnelle, quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. Parce que c'est vrai que pendant les études à l'école, déjà dans cette année-là, à l'école de Venise, on était plutôt paritaire en nombre. Après réflexion, il faut dire qu'on était pas, on n'avait pas assez la même équilibre de hommes et femmes parmi les enseignantes, et notamment parmi les enseignantes de projet, de cours vraiment de projet. Et je pense que par contre, c'était pas un hasard que ma professeure de diplôme était une femme qui faisait des projets. Donc voilà, c'était déjà un désir, je pense, pour moi de me rapprocher à cette cause.
D'accord. Ah oui. Et du coup, tu nous as dit tu as été diplômée en 98, c'est ça?
98, exactement.
98?
Après, je suis restée, donc j'ai fait une carrière assez, je pense, classique d'un certain point de vue, c'est-à-dire j'étais salariée pendant quelques années, plusieurs même. Et donc, j'ai commencé pour travailler 2 ans dans ma ville d'origine, qui est Bologne. J'étais dans une petite agence d'un architecte homme qui m'employait. Et donc, pendant 2 ans, j'ai fait vraiment le travail d'agence les plus variés. On faisait des projets de nouvelles constructions, de petites extensions, de petits projets d'urbanisme aussi. Donc, ça a été. Voilà, j'ai commencé à faire vraiment le boulot. Il faut dire aussi que c'était les moments où on commençait les vrais passages entre les dessins à la main et les dessins à l'ordinateur. Donc, mon projet de diplôme a été la première occasion pour moi d'utiliser AutoCAD. Et ça, que je sais que maintenant, pour les étudiantes et les étudiants, c'est assez bizarre de penser à tout un cours d'études sans ordinateur, mais il faut dire ça. Voilà, moi, j'ai fait tous mes études à part les diplômes. Et il faut dire qu'au moment du diplôme, on n'était qu'un tiers des personnes qui passaient les examens à présenter un projet et dessiné à l'ordinateur. Donc c'était vraiment le moment du passage. Après, arrivé dans les mondes professionnels, c'était presque demandé partout. Et donc voilà, les premières 2 années aussi, c'était un apprentissage des outils d'informatique pour les dessins et pour la représentation. Et petit à petit, après Photoshop, etc. Et je sais que maintenant, c'est presque préhistorique de raconter ça. Les étudiants, ils arrivent directement avec un bagage informatique assez important. Pour nous, c'était vraiment le passage. Voilà.
C'est vrai que c'est une bataille de les garder à la main, parce que c'est indispensable hein, qu'ils commencent par dessiner à la main. Ça,
Oui, c'est vrai que ces discours me travaillent beaucoup parce que moi, c'est pas seulement au niveau d'esquisse, mais j'essaye le plus possible de dessiner à la main. Et c'est vrai que c'est très apprécié par mes clients aussi. Bien sûr, s'il faut faire un bâtiment de 15 étages, c'est pas possible maintenant. Mais dans les projets de rénovation, de petites extensions aussi, on peut vraiment garder cet outil qui font gagner du temps. C'est paradoxal, mais oui, sur les petits projets, on gagne du temps en dessinant à la main, et sur les grands projets, évidemment, non, surtout quand il faut avoir des interfaces avec beaucoup d'autres intervenants, c'est différent. Donc voilà, moi je suis passée donc après en France. J'ai travaillé après dans une agence moyenne où je faisais surtout des concours. Et je paye moyen des détails, niveau détail, parce que je pense que la taille, ça raconte beaucoup aussi de notre méthode. Plus on est dans une petite agence, plus il faut faire des tâches différentes. Et plus on est dans une grande agence, et plus la tâche, elle est un peu, comment dire, limitée. Donc, Voilà, et donc je fais pendant 4 ans des concours, des rendus des concours, donc des charrettes, comme on dit en France. Et ça aussi, j'ai appris que c'est quelque chose qui vient de l'école des beaux-arts, et donc de cette origine un peu en France, de l'école d'architecture liée plutôt aux beaux-arts, tandis que par exemple en Italie, c'est plus lié à l'école d'ingénierie, comme d'autres pays aussi, d'ingénierie structurelle. Et donc, cette pratique très intéressante de répondre à des concours d'équipement public en France, c'était très enrichissante et c'était aussi très particulière par rapport à cette histoire de la charrette. Voilà, je pense que c'est un thème aussi qui m'a fait réfléchir, que moi, en tant que fille, je sortais de l'agence à 2 h de la nuit et je prenais un taxi, d'accord, ou sinon s'il y avait encore un métro, comme c'est le cas à Paris, jusqu'à parfois à 1 h, je rentrais toute seule. C'était pas la même attitude de rentrer. Parce que tu es très fatiguée quand tu sors de chez toi. Voilà. Tu es très fragile, je pense. Donc, c'est une question qui me concernait plus que mes collègues hommes qui sortaient de 2 heures supplémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose. Et après, voilà, à fur et à mesure, après, j'ai eu un changement de vie. J'ai déménagé à Londres, donc où j'ai travaillé, je suis restée 4 ans, et où j'ai travaillé, ça, c'était pour des raisons personnelles, mais j'ai tout de suite, évidemment, trouvé un travail dans une autre agence qui était une grande taille d'agence. On était 140, donc en agence plus grande. Et je me suis retrouvée un peu parce que c'est en deuxième migration, donc mon anglais avait besoin aussi d'être rodé beaucoup. Et donc, j'ai recommencé un peu encore une carrière à nouveau, disons, parce que mes compétences linguistiques n'étaient pas assez développées. Et donc, ça m'a pris des années pour devenir chef de projet aussi en Angleterre. Mais après, c'était très intéressant aussi parce que la méthode anglo-saxonne est très différente de celle latine, italienne et française, j'étais habituée, où disons que les résultats est plus important que les processus, ou en tout cas la méthode. Et c'est vrai que parfois j'étais très surprise de voir comment les anglo-saxons sont attachés à la méthode plutôt qu'à suivre toutes les étapes nécessaires. Et c'est vrai qu'ils sont très, très solides sur ça. Voilà, c'était très, très, très intéressant. Après, j'ai décidé de revenir en France et je me suis associée avec un ami qui montait sa boîte. Et donc, j'ai commencé une activité, disons, plus indépendante. Voilà. Jusqu'à, après, créer ma propre. Ma propre structure il y a 10 ans, et toujours en restant en petite taille, c'est-à-dire moi ou en collaboration avec d'autres professionnels pour des projets mirés, disons, pour certains projets. Mais voilà, parce qu'à côté, j'ai commencé une collaboration qui est devenue un emploi encore salarial avec un office d'HLM. Donc je suis passée, disons, du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et donc j'ai actuellement encore, ça fait 9 ans que ça dure, 8 ans, 9 ans que ça dure, cette double vie, disons. Donc moitié du temps, je suis maîtresse d'ouvrage et l'autre moitié du temps, je suis architecte libérale. Et ça marche très bien parce que les deux sont très complémentaires. Le fait de faire un plan de financement en tant que maîtresse d'ouvrage me rend complètement consciente aussi des enjeux économiques, encore plus de ce que je l'étais avant, d'un projet. Et en même temps, certains choix que je peux faire avec les clients me rendent plus consciente de ce que seront les nécessités des personnes qui vont utiliser des logements que je programme. Donc, en même temps, c'est très intéressant.
Merci, merci pour cette historique. Moi, j'ai une question. Quelle est l'intention, en fait, quand tu t'installes en nom propre, tu vises quoi? Tu veux faire quoi avec cette agence?
Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'au départ, tu veux survivre. C'est aussi une question vraiment de trouver une façon de gagner sa vie. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que que des artistes avec un cherche de... Après, il faut penser aussi que dans les dernières 10 années, la réflexion sur la profession a beaucoup changé. Alors, c'est un peu grâce, je dirais après, mais je pense grâce aussi au mouvement féministe qui est en train de mettre en cause le monde sous plusieurs angles et donc aussi sur les côtés professionnels. Moi, j'ai résisté longtemps dans ma vie à pas m'inscrire à l'ordre professionnel parce que je l'ai toujours considéré une structure très machiste à la base, en tout cas conçue par des hommes qui voulaient, voilà, concevoir la profession à leur usage. Et je l'ai dit avec comment dire, accusation d'un soi. Je veux dire, c'est évident que des personnes qui se retrouvent à faire les mêmes métiers, qui sont plus majoritairement avec certains types de problématiques, qui les communes, elles essayent de faire face à ces types de problématiques. Elles n'ont aucun intérêt à s'intéresser a priori des autres. Donc, c'est un mouvement qui part aussi du fait que maintenant, il y a 30% des inscrites aux ordres, au moins en Île-de-France, je ne connais pas trop les statistiques ailleurs, mais qui sont des femmes et qui donc ont besoin peut-être de quelque chose de différent. Voilà. Et parmi cette mise en discussion de la profession, il y a aussi la question écologique, bien sûr, qui est très, très, très. Bon, on dit, commence finalement à se faire entendre de façon aussi importante à niveau. Bah, elle devrait au moins. Et donc, c'est vrai que tout ce qui est la construction faite, disons, avec plus de bienveillance envers notre vie sur cette planète, c'est un peu plus marqué maintenant ce qu'elle était avant. Et c'est vrai que bon, l'effet aussi de penser à travailler dans la rénovation plutôt que dans la nouvelle construction, ce qui était par contre mon grand désir quand je suis sortie de mon école. Voilà, je faisais des projets de nouvelle construction, des grands bâtiments, un béton éventuellement, avec des structures importantes. Voilà, maintenant, c'est devenu un peu plus, bah, restons plutôt à essayer de densifier ce qui existe dans les villes, dans nos villes. Éventuellement, pourquoi pas construire encore à la campagne, mais de façon le plus possible respectueuse de ce qui existe déjà. Ce qui est vraiment, voilà, c'est maintenant tous les débats un peu là, où on construit où et comment pour cette population que, en général, agrandissent, dans certaines villes, en train de diminuer déjà. Donc, c'est assez important. Et comment, surtout, avec quels matériaux? Bien sûr, maintenant, donc, j'essaie de programmer tout ce que qu'on peut construire avec des filières biosourcées. Après, c'est vrai que maintenant, on se pose aussi la question, est-ce que c'est juste d'utiliser beaucoup de bois pour construire beaucoup de bâtiments, tout en sachant que les filières de production du bois, elles endommagent beaucoup la biodiversité des forêts. Donc, en même temps, c'est très, très difficile. Donc, tous ces questionnements, je pense, sont en train de créer une crise dans notre profession, que je pense pour être positive, très positive.
Ok, super.
Donc, par rapport à la question, voilà, du genre, il y a quelques années, ça fait déjà, je pense, 5 ou 6 ans, on a commencé avec des amis architectes à se poser la question de comment pouvoir un peu rendre plus visible et plus efficace notre travail des femmes architectes. Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte, bien sûr, on allait très souvent à suivre des conférences des confrères. Les publications dans les magazines étaient très souvent dédiées plus à des confrères qu'à des consoeurs. On a eu, nous, les phénomènes, on a vécu les phénomènes Zaha Hadid, qui a été, moi j'ai dit phénomène dans le sens que malheureusement, est resté assez isolé son exemple. Moi, je me rappelle très très bien, et ça aussi, ça fait partie de la préhistoire un peu, mais la première fois que j'ai vu sur un magasin publier dans le magazine, un projet de Zaha Hadid, qui était son restaurant à Tokyo. Moi, la première fois que j'ai connu cette femme, j'ai vu une petite photo dans un article secondaire dans une magazine italienne. Elle avait la bibliothèque à Venise. Je me rappelle comme ça, j'ai eu une sorte d'éclairage. J'ai dit, waouh, c'est une femme d'origine irakienne qui vit à Londres, qui construit à Tokyo, mais c'est génial. Elle fait, ça m'a beaucoup. Je l'ai toujours tout de suite percutée. Et après, j'ai suivi sa carrière et ça nous a beaucoup inspiré, je pense, nous les femmes architectes, sa carrière, parce que c'est devenu, oui, une archistar. Oui, on peut aimer ou pas son travail, mais c'est quelque chose d'exceptionnel quand même qui nous a, que ça reste exceptionnel et qui nous a beaucoup interrogé sur comment c'était possible. Moi aussi, en tant que femme étrangère, c'est encore plus, tu vois, c'est encore plus un modèle très, très, très intéressant. Donc, après, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas vraiment en France beaucoup de travail fait sur ça. Il y en avait très sporadique. Il y avait, oui, bien sûr, des issues. Par exemple, Architecture Créée avait fait en 1999 une issue dédiée aux femmes architectes, tout dédié aux femmes architectes, où on voyait déjà qu'il y avait, bien sûr, tout un travail fait qui existait, mais n'était pas très, très publié. Après, moi-même, en 2005, j'avais édité avec un magazine italien qui s'appelle Parametro un numéro dédié aux femmes architectes. Donc, j'étais, comment dire, voilà, avec ce travail un peu de journalisme que j'ai fait aussi pendant des années, j'essayais de creuser cette question, de voir qu'est-ce que ça empêchait finalement que dans les écoles d'architecture, on était la moitié déjà à mon époque, et on l'est encore toujours, même presque plus de femmes que de filles, plus de filles que de garçons. Et après, dans la profession, il y avait cette différence. Eh bien, donc on s'est commencé à interroger encore plus sur ça. On a décidé de créer un collectif où on a été rejointe après avec d'autres femmes qu'on a rencontrées. Et on a commencé à parler de ça. Et donc, on a créé l'association MEMO, c'est acronyme pour Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Donc, on s'est concentré sur ces domaines qui sont ceux de la conception de l'espace. Donc, aussi les paysagistes, les urbanistes, les designers. Et c'est vrai que ça nous a porté à nous confronter directement avec les institutions aussi, tout de suite, donc avec les ordres. Donc, du coup, je me suis un peu rassurée parce que j'ai commencé à voir que les présidentes des ordres, par exemple, en Île-de-France, étaient des femmes. J'ai commencé à voir tout le mouvement. Donc, je me suis moi-même inscrite à l'ordre des architectes, finalement, en récupérant tout cette. Depuis des années. Mais bon, c'était une réflexion très longue pour moi. C'était pas évident. Et finalement, l'une de nous, Anne Labreuil, elle est finalement bah, aussi représentante alors des architectes. Donc, on infiltre un peu les institutions et on essaye de faire le possible. Après, c'est vrai que ça reste une activité, comment dire, de militance qui grignote pas mal les temps de travail, et donc dédié au travail. Et donc, ça reste ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'avec l'association MEMO, on a, je pense, posé un peu en France un point assez clair. Voilà, les problèmes existent. On a décortiqué les statistiques pour démontrer que le problème est là. Et ce n'est pas seulement au niveau des salaires qui sont beaucoup inférieurs pour les femmes qui travaillent en libéral, en architecture ou dans ces métiers plutôt que leurs confrères. Et on a aussi, comment dire, analysé attentivement toute la publication de professionnels en démontrant qu'il y a vraiment des différences énormes dans la valorisation du travail des femmes. C'est à travers ça aussi qu'on a pris conscience qu'on a une vraie nécessité de valoriser les femmes aussi que dans le passé on construit, les femmes qui construisent. Et donc, on a participé depuis 5 ans aux Journées du patrimoine, qui sont la version féminine des Journées du patrimoine. Et donc, on les fait sur l'Île-de-France, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on redécouvre des femmes qui ont construit beaucoup et qui sont pratiquement oubliées. Personne parmi nous, parmi les plus jeunes qui sont en train de rejoindre MEMO, sont nombreuses, c'est très très bien, n'ont jamais eu occasion d'étudier à l'université, par l'école d'architecture, pardon, ce type de références. Tandis qu'on sait très 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 bien que dans notre travail, ce n'est pas du copier-coller évidemment, mais la référence est un exercice, un outil fondamental, même pour les plus brillants et les plus géniaux, ça reste vraiment une source importante. Donc, Voilà, à travers les journées du matrimoine, il ne s'agit pas seulement de retrouver celles qui ont été oubliées, mais aussi de relire l'ouvrage de celles qui sont très, très connues maintenant. On peut être Charlotte Perriand, Hélène Gray, on peut relire leur ouvrage sous des autres points de vue, qui ne sont pas ceux qui sont peut-être les plus appris et connus. Voilà.
Parce que si c'est un homme qui regarde l'ouvrage d'une femme, il ne va pas forcément voir la même chose que si c'est une femme qui regarde l'ouvrage d'une femme. Le point de vue de la femme, il existe dans la manière de construire, mais aussi dans la manière de regarder ce qui est construit, que ce soit d'ailleurs l'ouvrage d'un homme ou l'ouvrage d'une femme. Enfin, et il est oublié, à tous les niveaux. C'est vrai que moi, j'avais été très surprise quand je faisais mes études, et même encore aujourd'hui, quand je disais... Bah voilà, on me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais bah je fais des études d'architecte, et on me regardait, il y avait toujours un temps un peu, puis on me disait mais architecture d'intérieur ou...
c'est classique, c'est encore classique.
En fait, j'ai mis plusieurs années à comprendre qu'on allait me demander ça toute ma vie presque, hein, parce que moi, en plus je fais jeune, donc on continue à me demander mais vous êtes architecte d'intérieur ? Ben non, si j'avais été architecte d'intérieur, j'aurais dit voilà, je suis architecte d'intérieur, mais... Comme je dis, je suis architecte, c'est que je suis architecte. Et un jour, j'avais demandé à mes collègues, à mes amis hommes, je leur avais demandé si on leur avait déjà demandé s'ils étaient architectes d'intérieur. Et aucun d'eux ne doit redire.
Je crois pas. Non, je crois pas que ce soit une question qui se sont posées. Non, mais oui, bien sûr, je comprends.
Il y a une vraie question, donc, effectivement, de la représentation. Et d'ailleurs, même, c'est très juste ce que tu dis quand tu dis que nos enseignants... Alors, moi, j'avais quand même quelques enseignants de projet, femmes, moins que des hommes, mais quand même quelques-uns. Mais aucune n'était maman, par exemple. Quand je suis devenue maman, j'avais aucun modèle de ce que c'est qu'une femme architecte qui fait des enfants. Comment elle travaille, comment elle gère son temps, est-ce que ça existe, en fait?
Oui, ça existe, oui, ça existe, mais bien sûr, après, il faut voir aussi, c'est pas seulement les nombres, bien sûr, qui est important, c'est pas seulement les types des postes, voilà, projets ou autres, qui est important. Il faut voir aussi comment ces personnes, elles sont très souvent, je dis peut-être, mais ils sont un peu dévalorisés, voilà. Moi, j'ai remarqué qu'en tout cas, même parmi les femmes qui sont profs des projets dans l'école et qui peuvent finalement donc transmettre leur savoir, ce ne sont pas les cours qui sont les plus valorisés. Il y a tout de suite cette misogynie qui se met en place, même dans ces petits milieux, ce qui fait si qu'évidemment, ben, ils ne sont pas très capables. Non, ce n'est pas la peine de faire ces cours, elle n'est pas très bonne. Tu vois, évidemment, moi, je sais que c'est, je l'ai entendu à mon époque et je l'entends encore. C'est comme ça dans les écoles. Donc, ça crée tout de suite un peu cette idée que bon, c'est pas très, très valorisant, en tout cas, de faire des études, des cours avec ces personnes qui sont la plupart du temps, évidemment, brillantes. Donc, c'est aussi très... Bah, il faut faire face à cette misogynie qui est dans notre société encore. Alors, il faut dire aussi que nous sommes dans une période tellement pivot pour tellement de choses que même cette partage entre hommes et femmes, cette vision genrée, elle est un peu nécessaire encore parce qu'elle nous fait préjudice, nous porte préjudice sur certaines situations, notamment les salaires, donc notre possibilité de vivre plus ou moins, voilà, de façon confortable, mais aussi il faut dire que maintenant la question du genre elle-même elle est mise en doute, donc probablement on sera un futur capable c'est un peu paradoxal dit par une femme féministe qui a fondé une association féministe, mais bon, c'est une question que j'espère, je souhaite vraiment qu'elle soit vraiment dépassée très vite. La fluidité des genres, le fait que cette dichotomie, peut-être, elle n'est pas tout encore tellement, tellement utile à interpréter notre réalité, parce que de ça on parle, d'utilité au moins, des moyens d'utilité pour pouvoir lire notre réalité, pouvoir y vivre de façon heureuse, hein, c'est ça. J'espère que ça sera, voilà, juste un passage. Ça ne sera pas nécessaire de rester encore ancré à cette division entre personnes d'un genre de l'autre. Et voilà, donc c'est... Ça, c'est une autre chose pour ouvrir un peu la fin de notre conversation. Je pense que c'est nécessaire aussi de commencer à réfléchir sur cette base, tout en restant très, très, très ancré à ce qui sont les réalités actuelles. Les réalités actuelles sont très claires. Il y a une différence qui n'est pas aux avantages des femmes, voilà, ou de celles qui se reconnaissent comme femmes.
Et donc, du coup, comment est-ce que vous procédez? Donc, vous publiez, c'est ça, avec Memo, vous agissez?
Nos actions, pour le moment, sont des conférences, surtout, des interventions dans les cours des écoles d'architecture aussi, pour sensibiliser encore, voilà, encore avant de rentrer dans la profession. Après, à l'ordre, voilà, on est en train de travailler sur la question vraiment d'aller un peu à la source, de créer des outils aussi d'égalitaire, qui était très très difficile en France, qui est un pays qui s'affiche comme égalitaire à la base. C'est vraiment donc c'est aussi un travail un peu de finesse qu'on essaie de faire avec les ministères de la culture pour pouvoir arriver vraiment à faire ça. On a pratiquement contribué à la rénovation de la cité audacieuse, qui est un lieu créé par la mairie de Paris pour créer un siège des associations féministes, dont nous on a aussi notre espace. Et on essaye de travailler surtout sur la question de l'imaginaire, voilà, comment l'imaginaire s'est construit. L'imaginaire de l'architecte, qui est encore très, très, très masculin. Hein. Et il faut juste voir qu'il y a une expo qui a été faite à la Cité de l'architecture il y a quelques années, il y a 3-4 ans. On parlait de l'architecte, de la figure de l'architecte, voilà, et c'était aux 90% représenté par des figures masculines. C'était vraiment assez impressionnant. Donc, en réagissant à des situations comme ça, avec des lettres, avec des protestations, après, là, l'un des derniers projets qu'on lance, c'est celui de répertorier toutes les monographies qui existent sur des femmes architectes qui ont fait des projets, pour pouvoir le diffuser le plus possible dans les écoles, dans les bibliothèques, de façon à diffuser le plus possible ces beaux travaux qui sont aussi pas très présents dans les étagères des bibliothèques, dans les écoles d'architecture. Il faut dire que oui, je pense que les jeunes étudiantes, elles ont soif de pouvoir connaître des projets faits par des femmes, de connaître aussi leur vie, comment elles ont réussi à le faire. Donc, je dis, il faut vraiment prendre cet espace, voilà, même s'il ne nous est pas libéré, s'il n'est pas libre, il faut le couper.
et toi, dans ta pratique.
Moi, c'est vrai que j'ai presque 50 ans, je me considère une femme architecte très jeune. Donc, c'est vrai qu'à un point de vue professionnel, encore plus ce qui est vrai pour les hommes, c'est vrai, encore plus vrai pour les femmes. Et c'est pas pour mes... Voilà, c'est juste vrai. À 50 ans, une femme, finalement, elle a les cheveux gris et quand elle arrive à un chantier, ben, il n'y a pas de doute. Elle, finalement, c'est quelqu'un d'expérience. Donc, on l'écoute. Une jeune femme architecte, elle est vraiment, vraiment très difficilement prise au sérieux. En tout cas, voilà, c'est plus difficile. Je l'ai dit parce que j'ai écouté beaucoup de confrères incompétents être écoutés de façon beaucoup plus facile qu'une femme compétente. Donc, il y a encore, mais c'est une misogynie qui est transversale dans notre société. Dans les chantiers, on rencontre des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de notre société. Donc, c'est pas spécial dans notre profession. Dans notre profession, ce qui est vrai, que sur les chantiers, il y a surtout des hommes. Bon, dans les BTP, je pense qu'on commence à voir les 4 ou 5% des filles. C'est pas encore très, très équilibré, évidemment. Et donc, on a affaire avec un milieu qui est spécialement masculin. Après, dans les agences, on a très souvent les chefs ou les chefs d'agence ou les chefs tout court qui est un homme. Donc, c'est vrai que c'est plus fréquent. Voilà. Après, ça existe, ça marche très bien. Il y a aucune empêchement aux femmes pour être bons architectes. Donc, faut y aller.
Et moi, j'ai une dernière question, peut-être un peu différente de celle que je pose d'habitude, mais toi personnellement, dans ta pratique, que ce soit en tant que salarié ou en tant que libéral, quels sont les moments forts dans lesquels tu t'es dit là, en fait, je subis une discrimination parce que je suis une femme?
Ah, c'est très intéressant. Moi, je pense que la plupart des discriminations, je me les suis posées moi-même. Fruit d'une culture, comment dire, qui m'a toujours appris à être plus. Je ne parle pas forcément d'une culture familiale, hein, c'est vraiment une culture sociale qui a fait si, que moi, je ne pensais pas du tout de pouvoir oser certaines choses. Voilà. De pouvoir ouvrir mon agence à 27 ans, je n'aurais pas pensé, même pas en seconde, et pourquoi pas? J'aurais fait les mêmes choses qu'ont fait certains amis, hommes, qui ont ouvert leur agence sur la trentaine. Ils ont développé leur façon de faire et leur métier. Ils ont gagné mieux leur vie que moi, peut-être aussi, tu vois. Aussi. Donc après, il y a bien sûr, comme dans la vie, il y a aussi eu des épisodes malheureux. Récemment, on a fait toute une réunion de mémo justement sur cette idée de nous raconter l'une à l'autre nos épisodes de machisme subi en agence ou métier libéral, et ça a été étonnamment nombreuses les témoignages, même parmi les générations plus jeunes. Moi, j'espérais que c'était quelque chose un peu voilà, et non, c'est pas soupéré du tout. On est toujours là. Alors, je me dis, c'est pas quelqu'un qui fait des remarques sur ton physique complètement décalé pendant une réunion professionnelle. Tu vois, c'est des choses qui peuvent profondément affecter ton amour de toi, ta confiance. Voilà, je pense que la plupart des personnes ne se rendent pas compte jusqu'à quel point un milieu professionnel, on y arrive déjà avec une certaine, disons, fragilité, donnée juste tout simplement par le bagage culturel. Et les minimums attaques, les minimums, comment dire, ce remarque déplacée a des effets beaucoup, beaucoup majeurs plutôt que sur quelqu'un qui arrive avec déjà son assurance de base. Voilà. Donc ça, c'est vrai que. Après, il y a aussi des épisodes comme dans tous les domaines aussi graves qui peuvent arriver jusqu'à la violence. Il y a la violence psychologique, la violence physique. Je veux dire, ça existe, ça, un milieu architectural comme dans tous les autres milieux. Donc, c'est vrai qu'on se confronte aussi avec des autres professionnels, les avocates. C'est transversal, ça, il faut le savoir. C'est comme c'est transversal dans notre société, à tous les âges, malheureusement, et à tous les catégories sociales, les groupes différents, c'est aussi dans les nôtres. Donc on est là.
Moi, je m'en suis rendu compte en fait en négatif, parce que j'ai eu la chance de travailler dans une agence dirigée par une femme où on était trois femmes et un stagiaire homme. Et en fait, la première fois que je m'assois dans ce bureau, donc je revenais de congé maternité, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, j'étais pas très 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 à l'aise avec mes compétences, mes capacités. J'avais un peu perdu de vue cet aspect-là de ma vie. Et donc, je suis dans mes petits souliers un peu dans cette petite agence où je suis trop trop contente d'avoir trouvé une place et je sens que je vais me sentir bien. Et en fait, la chef voit que je suis installée sur son ancien poste à elle, sur son poste à elle. Et en fait, il y a une heure dans la journée où le soleil arrive enfin, dans les yeux de celui qui travaille quand on est assis là. Et elle, elle se lève, elle était en train de faire quelque chose, elle se lève et elle va me fermer le volet en me disant « Ah oui, tu verras quand on travaille ici, à une certaine heure, le soleil dérange. » Et en fait, le simple fait que ce soit elle qui ferme le volet plutôt qu'elle me dise « Ah oui, là, t'es dérangée par le soleil, tu devrais aller te fermer le volet. »
Oui, c'était très bienveillant.
Cette bienveillance-là,
oui,
que, en fait, je me suis dit « Ah, ouais, mais c'est ça, travailler avec une femme, en fait. » C'est ça, ça change.
Oui, oui, oui.
Ça change que...
C'est mettre à, sa, à la place de l'autre. C'est vrai que c'est ça la question. Après, la gentillesse, elle existe, bien sûr, et heureusement
sûr,
aussi très diffusement chez les hommes aussi. Mais c'est vrai que c'est mettre...
On est en train de parler d'un homme qui m'aurait dit « Est-ce que tu peux aller me fermer le volet parce que ça me dérange ?» C'est pas
oui,
ça. Là, j'aurais comprendre qu'on me dise « Ben, on va te fermer ton volet, ça te dérange toi en tant que...
Ouais. »
Mais c'est le geste, il est pensé différemment. Et là, ça m'a dans ma tête, il y a eu un déclic et je me suis dit « Ah, mais en fait, moi, je veux travailler avec des femmes. Enfin, »
Oui, bien vu. Oui. Et c'est vrai que très souvent, on parle aussi de la concurrence ou de la problématique qui s'est créée entre femmes. Hein. Elles sont évidemment des problématiques que la culture machiste valorise au maximum pour démontrer que voilà, c'est. Et je veux dire que ce que ça peut arriver très souvent, c'est aussi que les femmes, elles sont mises l'une contre l'autre par tout simplement par un système patriarcal où voilà, tu fatigues à trouver ta place, faire au dépit d'une autre femme. Voilà, après aussi, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui actuellement, elles sont un peu, se sont obligées de s'insérer complètement dans ces systèmes. Et donc, voilà, il y en a aussi qui sont complètement... comment dire, à l'aise avec certains systèmes. C'est pas, ben ça on le sait, c'est dans tous les domaines, donc l'architecture aussi. Mais je pense que voilà, ce que l'épisode que tu racontes, c'est exactement ça. C'est, ça va au-delà de la gentillesse, c'est vraiment de se mettre à la place de l'autre, et c'est savoir se mettre à la place des autres, et notamment des personnes qui vivent des situations qu'on connaît pas. Je vois un urbanisme, un niveau de travail dans l'organisation de l'espace public, si tu n'as pas vécu ce fait d'avoir peur pendant que tu marches dans la rue, dès que la nuit tombe, ou même en journée, si la place peut être isolée, ce type de peur qui nous accompagne depuis qu'on est adolescente, je pense, c'est pas très facile pour un homme de la comprendre, par exemple. Donc, ce désir de pouvoir investir des lieux qu'on voit utilisés principalement par des hommes, et se dire, mais pourquoi je ne suis pas là, pourquoi je ne peux pas, maintenant tu ne peux pas, dans certains quartiers, encore en Île-de-France, s'asseoir en terrasse pour une femme, c'est pas complètement bien vu. Ou, voilà, les espaces de sport qui sont conçus et dédiés encore de façon majeure aux hommes, c'est des problématiques que nous, on connaît très bien, pertinemment. Et les hommes, ils ne les voient même pas. Et quand tu leur en parles, la plupart du temps, ils te disent « Mais non, ce n'est pas vrai, regarde, il y a l'égalité, il y a l'accès pour tout le monde. » Tu vois, c'est des choses que nous, on connaît très bien. Donc, évidemment, c'est plus facile pour nous de prendre en compte quand on fait un projet. Après, il faut voir aussi... Si la programmation, elle est faite par qui et comment nous, en tant que conceptrices d'espace, on reste quand même avec un grand pouvoir, mais limité aussi au fait de la programmation. C'est pour ça que moi, je trouve très intéressant de travailler aussi dans la maîtrise d'ouvrage en architecture, parce que ça donne la possibilité de programmer les choses différemment, peut-être, je le souhaite.
Oui, c'est passionnant. En fait, pour que l'espace public soit plus égalitaire, il faut qu'il y ait plus de femmes qui le dessinent et plus de femmes qui le commandent. Sinon, en fait,
certainement. Qu'elle soit plus écoutée. Moi, je dis pas, il y a beaucoup de façons d'intervenir. Il y a la participation, il y a beaucoup de formes, mais oui, parmi ces formes, sûrement, est celle qui il y a plus de femmes qui les conçoivent, tout court.
Ouais. Un beau programme.
Assez lourd, mais bon, espérons qu'on y passe assez vite à l'étape. On résout ce type de problème pour passer à des autres qui nous concernent toutes et tous. C'est la question Mais moi, là aussi, sur la question écologique, sur la question, moi, je pense que les écoféministes, elles ont beaucoup déjà réfléchi, ils ont beaucoup à dire. Il y a pas de mystère. Les théories et les pratiques sont là. Il faut juste leur donner l'importance qu'elles méritent et leur laisser la place. Ouais.
Bon, bah écoute, merci Rosella, c'était passionnant. Je te remercie d'avoir accepté de cet exercice qui est pas simple, hein, de voilà, d'être écouté, savoir que ce qu'on dit c'est écouté. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et voilà, c'était Rosella Gotti. Je suis Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker, le partager, le commenter, vous abonner sur les plateformes d'écoute. J'espère vous retrouver très vite pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.